Bienvenue dans le podcast Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. Ce podcast est produit par le C3RP, une unité du GHU, Paris Psychiatrie et Neurosciences. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à Laurelaine et Lorraine. Dans ce type d'épisode, on va se montrer très curieuse de l'impact de l'autisme dans leurs relations, de ses avantages, des difficultés, des stratégies qu'elles ont pu mettre en place pour la faire fonctionner. Et c'est Sophia et Ala, psychologues au C3RP, qui vont mener l'entretien. Bonne écoute.
Donc moi c'est Laurelaine, j'ai 38 ans, j'ai été diagnostiquée à 37 ans, donc il y a un an. Je suis actuellement professeure et je suis en couple avec Lorraine depuis 15 ans.
Je suis Lorraine, donc on est ensemble depuis 15 ans, mariés depuis
2014.
5
plus 6.
6 ans.
Voilà.
En plus. Peu importe.
Non.
2014 ou
2018. Je pense que c'est pas très, très grave.
Donc voilà, on est ensemble depuis un certain temps et je suis tatouée.
Ok. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de l'autisme ?
Alors en fait, bon, ça fait un moment que je me pose la question parce que dans ma famille, il y a des gens qui potentiellement pourraient... Enfin, c'est mon père qui m'a dit qu'il pensait que j'étais autiste. Et parce qu'il avait lu en fait sur les autistes féminins qui sont manifestement très différents des autistes masculins.
Mmh.
Et il m'a dit qu'il pensait que j'étais autiste, donc il m'a prêté un livre là-dessus. Et donc j'ai lu le livre et effectivement je me suis reconnue dans pas mal de trucs. Alors après ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu que je trouve la démarche à faire. Donc mon psychiatre savait pas du tout comment gérer la chose. On a appris par mon kiné qu'il avait un psy à côté qui s'occupait de faire passer, enfin qui était spécialisé dans les adultes à haut QI, etc. Qui m'a fait passer donc plusieurs tests dont le WISE.
Oui, la WISE.
J'ai appris que j'avais un QI de compétition pour ce que ça m'apporte. Et lui, il m'avait diagnostiqué HPI en me disant que c'était pas possible que je sois autiste.
D'accord. Et qu'est-ce que c'est HPI déjà pour...
Au potentiel intellectuel.
Ouais.
Donc j'ai lu sur les HPI, je me reconnaissais pas du tout dans les HPI, donc ça m'a un petit peu contrariée, donc je suis allée un petit peu plus loin. Il m'a conseillé une psychiatre qui était spécialisée donc, dans le domaine, qui m'a conseillé d'aller à Sainte-Anne. Donc je suis retournée voir mon psychiatre traitant qui m'a adressée à Sainte-Anne, et là j'ai eu le diagnostic assez rapidement.
D'accord. Et pour revenir donc sur ce qui vous a mis sur la piste de l'autisme, est-ce que vous, Lorraine, vous aviez des indices, des questionnements par rapport à votre partenaire ?
Non, moi je suis désolée, j'ai pas beaucoup questionné l'affaire. On se connaît depuis tellement longtemps que, en fait, on a eu largement le temps d'apprendre tout ce qui énerve l'une, tout ce qui énerve l'autre. Comme on est très rigides toutes les deux, on a juste appris à tourner l'une autour de l'autre. Et du coup, bah, pour moi, ça, c'était tout à fait normal. Quand après la question s'est posée, j'ai pas trouvé ça surprenant non plus. Donc, du coup, bah, on s'est lancé dans l'affaire. Mais globalement, c'est elle qui s'est brouillée comme un chef, donc elle a fait tout de A à Z, sauf la partie kiné, ça c'est moi qui ai papoté avec le kiné, et il m'a dit « Ah, mais mon collègue, il peut gérer », et j'étais là genre « Ah, ça y est, c'est mon heure, c'est mon moment !» Et donc voilà, c'était ma seule contribution.
Oui, c'est vrai qu'on était jeunes quand on s'est rencontrés, donc...
Ouais. Et du coup, Laurelaine, vous avez dit que c'est votre père qui vous a un peu orienté dans cette piste-là. Est-ce que dans l'enfance, il y avait des signes aussi qui...
Alors apparemment oui, parce que d'après mon entourage, ils m'ont dit qu'effectivement, bah, de toute façon, c'est avec un entretien avec eux que j'ai été diagnostiquée.
Oui.
Donc, oui, il y avait des signes.
Oui, puis, quand t'étais dans la cour, à l'école.
Ouais, j'ai subi du harcèlement scolaire comme toutes les personnes autistes. Hein, ça, c'est
pas.
En tout cas, toutes celles que j'ai rencontrées en ont subi.
Ouais.
Je m'intégrais pas facilement dans des groupes. J'ai toujours eu des intérêts spécifiques. Enfin, j'ai quand même eu pas mal de.
D'accord, il y a pas mal de signes qui rappelaient.
Après, je sais pas si je faisais du flapping ou des trucs comme ça. Ça, c'est... J'étais trop jeune pour me souvenir.
Quand même le truc que tu fais avec tes pieds.
Oui, c'est vrai que j'écris des lettres avec mes pieds.
Ouais, quand elle est stressée, elle écrit des lettres. Elle forme les lettres avec le bout de son pied, en fait. Et elle dessine les lettres.
D'accord.
Et il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Genre, le S, c'est bien le S, mais je le dessine pas avec mon pied comme je l'écris sur une feuille.
D'accord, c'est écrit différemment.
Ouais. Ouais. Okay. Le D aussi.
Ouais, parce que la première fois qu'on m'en a parlé, elle m'explique le truc et je lui fais mais...
Le 7.
Enfin, j'ai jamais vu que tu faisais ça. Mmh. Et par exemple, là, tu le fais pas, parce qu'elle bougeait son pied, mais elle faisait juste de haut en bas. Et je fais là, tu le fais pas. Et elle me fait pas, si, je suis en train d'écrire stress ou un truc comme ça. Et j'étais là, ah bon.
D'accord.
Ok, découverte.
Donc, Vous écrivez des mots spécifiquement.
Ou des chiffres.
Ouais. Ou des chiffres.
Que j'entends.
Ok. Que vous entendez, c'est-à-dire ouais.
Bah, par exemple, si à la télé j'entends, papillon, je vais écrire papillon avec mon pied.
Et c'est à des moments où vous êtes stressée.
Bah, j'imagine, oui, parce que, mais je le fais tellement souvent que, enfin...
D'accord, il n'y a pas de moment.
C'est limite inconscient, en fait. Je me rends compte au bout d'un moment que je suis en train d'écrire un truc avec mon pied, quoi. Mmh. Je peux le faire avec mon ventre aussi.
Ok.
Voilà, donc elle dit qu'il n'y a pas de flaking, mais quand même.
Et comment ça a été le parcours du diagnostic dont vous avez parlé? Vous avez vu votre kiné qui vous a ensuite orienté?
Après, j'ai eu la chance, quand j'ai fait le parcours diagnostic, j'étais en congé longue maladie.
D'accord.
Donc j'avais du temps à consacrer à ça, quoi. C'est un des avantages d'être dans l'éducation nationale, hein, c'est qu'on peut avoir des congés de longue durée quand on a des problèmes psychologiques importants. Et du coup, bah, c'était pas un stress pour moi parce qu'en fait, bah, j'avais entre guillemets que ça à faire, quoi. Donc ça et me soigner.
Vous l'avez plutôt bien vécu en fait ce parcours.
Bah, j'ai mal vécu quand le psychologue m'a dit vous êtes HPI. Je l'ai pas très bien vécu ça pour le coup parce que j'étais là. Enfin, j'ai tous les inconvénients, mais j'ai aucun avantage. Enfin, c'est vraiment pourri, quoi. Mais en fait, quand le docteur m'a appris que j'étais autiste, c'était.
Mais aussi
un tel soulagement.
Avant d'arriver à tout ce qui a bien fonctionné, t'avais aussi essayé de trouver des listes de psy sur ouais. Internet, spécialisées dans l'autisme féminin, appeler, découvrir que le service a fermé, rappeler, en fait. Découvrir que la personne prend plus de nouveaux patients et tous ces trucs-là. Parce D'accord. que tu dis que tout a filé, mais il y a eu un moment avant ouais. qu'on parle au kiné.
En fait, justement, avant que je voie le psychologue, c'est vrai que ouais. Savoir à qui s'adresser, c'est infernal, quoi.
Et donc c'est ce parcours-là où vous avez dû chercher, c'était pendant combien de temps?
Je pense que ça m'a pris un an de me faire diagnostiquer.
Ouais, mais le moment de recherche, je pense que t'as fait deux
à partir,
mois.
Ouais,
t'as fait deux mois de où t'as pataugé dans le
sommeil. Ouais, j'ai fait deux mois où j'ai pataugé. Après, j'ai laissé ouais. tomber.
Je me suis dit. Et après, là, quand on a vu le
après,
kiné
oui,
qui
du
a
moment,
dit mon collègue, enfin, ouais. c'est pas son collègue, c'était pas un kiné qui nous a fait le truc, mais comme c'est la personne qui travaillait dans le même centre que lui, c'est là où ça a débloqué.
Et de ce moment-là, par contre, c'est le docteur. Il écoutera sûrement le podcast, il sera très content si je cite son nom, il est très bien, le psychologue.
C'est un psychologue ou un psychiatre?
C'est un psychologue.
Un psychologue, okay. Ouais.
Et du moment où il m'a fait mon WISE, là par contre ça allait très vite en fait, parce que bah, justement c'est lui qui m'a très bien aiguillée en fait. Mm-mm. Même si j'étais pas très convaincue par son diagnostic, il m'a quand même très bien aiguillée.
Et donc du coup, finalement la première piste c'était le kiné.
Le psychologue.
Via le kiné. Quels éléments en fait vous avez rapporté au kiné qui lui ont fait penser à l'autisme?
Bah en fait moi j'étais en train de lui parler de la situation dans sa globalité et lui ce qu'il a fait ce qu'il a en fait il s'est posé des questions par rapport à ce que je disais et il me disait bon en fait moi je m'y connais pas du tout, bizarrement je suis kiné et par contre mon collègue il spécialise pas dans les adultes mais je pense qu'il pourrait au moins l'aider vu qu'elle trouve rien du tout.
D'accord.
Donc il pourrait quand même faire quelque chose, il pourrait faire une exception en fait étant donné que on vous voit souvent.
Et pour la petite histoire c'est toujours lui qui me suit en psychothérapie parce qu'il est très bien.
D'accord, et ben docteur
et il s'est renseigné sur le sujet depuis qu'il a eu mon cas en fait. Il s'est beaucoup renseigné.
Sur l'autisme ouais. féminin à l'âge adulte.
Sur l'autisme dans l'absolu, sur l'autisme de haut niveau.
Oui justement parce qu'au début il avait balayé la possibilité en disant c'était HPI et ça pouvait pas être les deux. Mmh. Et finalement du coup il s'est renseigné lui aussi sur la question puisque il s'est rendu compte que si. Et donc c'est aussi quelque chose qui nous a vachement rassurés parce que il est capable de dire ok je me suis trompée, je vais apprendre et je vais corriger et on enchaîne.
Très bien. Et du coup, Lorraine, vous avez dit tout à l'heure que cette annonce du diagnostic, vous l'avez vécue comme un soulagement.
Un énorme soulagement. Parce que en fait, ça fait quand même. Je suis une personne autiste, j'avais 37 ans à l'époque, ça faisait 37 ans, et je pense que c'est ce qui m'a autant frustrée en fait dans le diagnostic HPI. Ça faisait 37 ans que je me sentais pas comme les autres, et quand j'ai commencé à lire sur l'autisme, j'étais là, ça c'est moi, je suis comme ça. Quand j'ai lu par contre sur les HPI, j'étais là, non, ça c'est pas moi. Donc en fait, même dans la case dans laquelle je devrais rentrer, je rentre pas, j'y suis pas, je suis un peu à l'écart. Donc quand on m'a dit si vous êtes autiste, j'étais là, ah ça y est, j'ai une case dans laquelle je rentre. En fait, je suis normale dans mon anormalité entre guillemets. Enfin, et ça a l'air de rien quand on a subi autant de harcèlement et autres brimades que j'ai pu en subir, parce que j'en ai subi aussi professionnellement. C'est vraiment un énorme soulagement.
Et pour vous, Lorraine, comment ça s'est passé ?
Moi, elle était soulagée, alors j'étais soulagée. Hein. Mm-hmm. On va pas se mentir, quand au début, quand elle disait que l'histoire de HPI, c'était pas ça, je lui disais, ouais, c'est peut-être pareil que l'autisme, un spectre, peut-être que tu te reconnais pas là, mais qu'en fait, en lisant d'autres livres, tu pourrais trouver. Et elle a décidé de persister, moi, pas de problème. Quand elle a eu le rendez-vous avec le docteur, tout ce que je redoutais, c'était qu'au final, le docteur disent bah non en fait HPI c'est bien ça, c'est pas l'autisme, et qu'elle soit déçue parce qu'elle se projetait tellement dans l'idée que ce soit ça, je me disais si elle est déçue ça va être la catastrophe, il va falloir gérer ça, il va falloir la soutenir et tout, et donc au final tout s'est bien passé.
Lorraine, est-ce que vous aviez déjà des connaissances sur l'autisme ?
Un peu, en fait dans mon parcours universitaire j'ai dû prendre des cours optionnels, donc moi mon parcours il est en art, mais j'ai dû prendre des cours optionnels, je les ai pris en psychologie, et du coup bah, j'ai vu, comme c'était un cours de psychologie de la personnalité, on a évoqué l'autisme, donc je m'y connaissais un petit peu, et ensuite plus tard j'ai décidé d'être prof, brillante idée que je n'ai pas poursuivie, et donc j'ai fait encore des cours de psycho à ce moment-là, et je me suis dit, bah tiens, j'avais un cours de psychologie de l'enfance, et je suis allée vers ce qu'ils appelaient à ce moment-là l'autisme de haut niveau. Et donc j'avais fait un petit début de recherche sur l'autisme de haut niveau, donc j'avais quelques infos, et pour ça que ça m'a pas semblé aberrant de partir sur
l'idée d'un diagnostic. Travaille là-dedans aussi.
Oui, mon père il est instituteur, enfin, professeur des écoles, et il est spécialisé dans toutes les déficiences intellectuelles pour le coup lui, et donc du coup il avait déjà une idée de ce que c'était au niveau de l'autisme, mais lui avec déficience.
Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé justement dans votre relation à vous avec cette annonce du diagnostic ou dans la relation que vous pouvez avoir avec vos proches, vos amis, votre famille ?
Alors, dans notre relation entre nous, on va être très décevante. Non.
Rien. Si, un petit peu. Il y a certains trucs, par exemple, que je faisais avant, que j'essaie de plus faire, où je sais que ça lui pose problème. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais il y a des petits trucs que je faisais qui la saoulaient énormément, et j'essaye d'être un peu plus zen sur ça, parce que je me dis, bon, c'est pas juste que je la saoule, c'est que je pose un vrai problème, et du coup j'essaye de faire en sorte de plus poser le problème. Par exemple, moi je suis une énorme jeteuse, je déteste l'accumulation.
D'accord.
Et j'ai besoin au contraire, pour pouvoir bien travailler et tout ce truc là, d'avoir un espace de travail très vide. Et elle, par contre, c'est une accumulatrice intense. Elle achète beaucoup de livres et tout, même des livres qu'elle a pas aimé ou qu'elle a pas lu. Et on en a vu vraiment beaucoup. Et elle jette pas. Et d'accord. Donc, moi, j'étais en mode c'est parti, la guerre est ouverte.
J'ai encore les confessions de Rousseau.
Ouais, non, ces livres du lycée, elle les avait toujours, alors qu'elle les déteste. Et donc, du coup, j'ai tenté pendant super longtemps de faire la guerre et de vider la maison. Et là, je me suis dit, bon, ok, cette guerre doit pas être une guerre. Ça doit être un petit peu plus doux.
D'accord.
Et on y va plus par étapes. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que j'ai essayé de changer. Mais sinon, après,
oui, c'est vrai qu'on veut déménager. Alors, pour moi, le déménagement, c'est l'enfer. Hein. Déplacement. Horrible, changer de cadre, tout ça.
Oui.
Et c'est vrai que là, elle a fixé un délai au-delà duquel on va déménager. Elle m'a même laissé le rallonger un peu.
Ouais, au début, on avait décidé que c'était 5 ans. Là, une année est passée, c'était toujours 5 ans. Et je me suis dit, ah, 5 ans,
c'est pas
bien. 5 ans, ouais, c'est une année qui lui plaît bien. Et donc, j'ai vu que c'était toujours 5 ans, qu'elle disait toujours aux gens, c'est 5 ans. Après, je me suis dit, bon, c'est le Covid, tout personne n'arrive à bien garder une bonne chronologie pendant le Covid. Donc, je l'ai laissé faire deux fois 5 ans.
Ouais,
puis ensuite, maintenant, cette année, je lui ai dit, bon, par contre, c'est 4 ans maintenant, on fait pas une troisième 5 ans. Donc voilà, on prévoit les trucs de manière plus claire, on met des délais assez longs pour qu'elle ait le temps de s'adapter. Voilà, on a fait des adaptations, mais sinon, fondamentalement, ça change pas grand-chose. Vu qu'on est là ensemble depuis longtemps, bah, on a l'habitude quand même.
Ouais, vous êtes un peu adapté déjà.
C'est ça, je pense que le travail d'adaptation, il a été fait depuis hyper longtemps.
Mais après, oui, concernant les autres personnes, je vais pas mentir, ça m'a quand même vachement simplifié la vie, parce que, par exemple, j'ai pu expliquer que souvent... Alors, c'est assez dur à expliquer, mais pour moi, les relations sociales, c'est comme un truc qu'on peut échouer ou réussir. Donc, il y a des interactions sociales réussies, des interactions sociales échouées. Sachant qu'à chaque fois que j'ai une interaction sociale, en fait, moi, je navigue à vue, hein, parce que je comprends pas le non-verbal.
Mm-hmm.
Le langage non-verbal, je le comprends pas du tout. C'est une catastrophe. Donc, je ne sais pas lire les intentions des gens. Par exemple, j'ai expliqué à ma mère que quand elle rigolait, pour moi, elle était contente. Et elle était là, mais même quand je suis triste, oui, tu rigoles, t'es contente. Moi, rigoler égale contente. Hein. Donc en fait, à chaque fois, je vais essayer de deviner ce que pense la personne et comment il faut que je réagisse par rapport à ce que fait la personne. Et ça, c'est dès que je croise une personne. Et la plupart du temps, j'ai bon, parce que bah, j'ai appris, en fait. mais il arrive que j'ai faux. Et en général, dans ces cas-là, je me fais tomber dessus. Et c'est normal, en fait, parce que je vais être blessante quand j'ai faux. Et là, je peux expliquer, des fois, je vais avoir faux. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour une fois où j'ai faux, il y a 10 fois où j'ai bon. Voire même plus. Et ça, en fait, les gens, ils ont tendance à mieux le comprendre, en fait, depuis que j'ai eu mon diagnostic. Et ça, c'est dans les interactions avec tout le monde. Je sais que bah, je peux donner des exemples précis aussi. Quand je suis, quel que soit l'endroit où je suis, j'ai ma place. C'est okay. Ma place. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément, on a le même canapé avec des amis, mais ma place sur mon canapé, c'est pas forcément la même place sur le canapé de mes amis. C'est voilà. Mais c'est ma place. Et quand on est sur ma place, ça me contrarie énormément en fait. Et je peux, il y a un nouvel an où je suis allée troncher dans la chambre parce qu'on était sur ma place. C'était ma place.
Okay. Et ça, c'est des trucs qu'on
et
a
ça, pu adapter. Et ça, c'était intolérable. Et en fait, maintenant, j'ai pu expliquer, ok, alors, c'était ma place, j'ai vu que quelqu'un était sur ma place, et comme j'ai aussi les problèmes d'assertivité qu'ont beaucoup de personnes autistes, je suis pas capable de dire, ok, ça, c'est ma place, j'aimerais que tu me la laisses. Mm-hmm. Du coup, bah, comme j'ai été contrariée, c'était inenvisageable pour moi de m'asseoir ailleurs, donc je suis partie. Et, quand et ça, j'ai pu leur expliquer.
Quand on est dans ma famille, en fait, moi, ma mère, c'est une personne assez...
c'est ce que
j'allais
dire
après, oui. Qui aime pas du tout, justement, ce côté routinier. Elle, par exemple, quand on est à table à midi, tout le monde, tous les jours, tout le monde change de place.
D'accord.
Et elle ça, déteste
très durable.
Dans la famille de mon père, c'était... Il y avait le grand-oncle qui avait sa place, le grand-père qui avait sa place, chacun avait sa place, et elle a détesté ça, et du coup, maintenant, elle a instauré le chaos. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit, voilà, elle a eu son diagnostic, elle est autiste, du coup il va falloir faire quelque chose, tu vois, changer les places c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et donc ma mère, dès qu'elle est arrivée, elle lui a dit, ok, choisis une place, c'est celle-là elle te plaît, ok, c'est la tienne. Et elle a fait la guerre à toutes les personnes qui mettaient, parce qu'on a des rondes serviettes pour indiquer qui va être à quelle place, le chaos est quand même limité, et du coup elle faisait la guerre à toute personne qui mettait son rond de serviette sur la place de Laure-Hélène. C'était genre, non, ça c'est la place de Laure-Hélène, et hop,
c'était ça, fait. C'est des petits trucs, mais c'est vraiment, moi ça me touche énormément de pas avoir à bouger à chaque fois, en fait, ouais, parce que, ouais. En plus, d'autant plus, quand je suis pas chez moi, j'ai vraiment besoin de me créer des repères, en fait.
Et comment s'est passée cette annonce du diagnostic à vos proches, des deux familles, des deux côtés ?
Moi, ma mère, elle a accepté tout de suite, ça lui faisait rien, comme elle disait, elle vit pas avec elle, donc son adaptation, elle est pas énorme, c'était juste, bon, arrêter de changer les places à table. Mmh. Elle, quand elle a besoin de parler avec quelqu'un, je sais que ma mère, elle lui dit sans arrêt que c'est bon, elle peut appeler. Alors en fait, c'est moi qui appelle ma mère, puis ensuite je lui demande si ça la dérange pas, puis je lui passe le téléphone, et là, elles peuvent parler. Mais voilà, donc du côté de ma famille, c'est pas un souci. Et puis alors, mon père, il est très stoïque, il se pose aucun problème, c'est pas un souci.
Moi, j'ai rencontré quand même globalement beaucoup de bienveillance dans mon entourage proche.
Ouais. Ma sœur, pareil. Gros soutien.
Donc, globalement, ouais.
Tant mieux.
Ouais, on se plaint pas,
c'est
en fait.
Quand même. Alors, dans votre relation, vous nous avez dit, il n'y a pas grand-chose finalement qui a changé depuis l'annonce du diagnostic. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui sont spécifiques au TSA de Laure-Hélène qui colorent peut-être un peu plus votre vie ?
Bah, en fait, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on envisage de déménager rapidement. Il y a un truc qui est un peu gênant, entre guillemets, c'est que l'appart dans lequel on vit actuellement, c'est le mien. Donc, comme c'est chez moi, j'ai mes habitudes chez moi et je suis quand même très territoriale. Alors, j'essaye de faire des efforts parce que je sais que j'ai ce travers-là et bah, maintenant j'en suis d'autant plus consciente. Enfin, je le savais déjà avant, maintenant je sais pourquoi je l'ai. Alors par exemple, là, il y a une semaine, elle nous a fait la révolution dans le salon. Alors ça, pour moi, c'est compliqué, hein, j'aime pas ça. En plus, elle a enlevé le dossier du canapé et ça c'est vraiment un drame. Mais je l'ai laissé enlever le dossier du canapé.
Ce qui est rigolo, c'est le canapé qu'elle n'utilise pas. C'est, on a deux canapés, donc il y a le sien, il y a son endroit dans le canapé que j'appelle son nid.
Mais j'aimais bien
toutes ses affaires. Et ouais, mais tu n'étais pas dedans, donc. Et du coup, j'ai changé que la partie où moi j'étais, en fait. Comme ça, je me suis dit, voilà, ça la bouscule pas trop et tout. Et je voyais au fur et à mesure que j'étais en train de changer les trucs, je la voyais me regarder avec un regard noir. Et elle me laissait galérer parce que j'avais dit, mais t'inquiète, t'auras rien besoin de faire. Et elle me laissait galérer. Elle m'a aidé juste à un moment parce que je devais retourner le canapé pour le démonter.
Je suis un peu revenue là-dessus, mais j'étais horrible. Je lui dis, ah ouais, bah si t'enlèves le dossier, tu le descends toute seule à la cave.
Je l'ai descendu à la cave. Mais ça va, en général, franchement, non, elle m'a un peu aidée quand même.
Oui, je t'ai
aidée. Elle s'est tenue à, tu le descends toute seule, mais elle m'a quand même un peu aidée, elle m'a ouvert la porte ou un truc comme ça. Elle a quand même fait un petit pas que j'ai apprécié. Que j'ai apprécié. Mais avant, ce qu'elle faisait, c'était que dès que. Donc, il pouvait y avoir le chaos dans la maison. S'il y avait du bordel qui était à elle, il avait le droit d'être là.
Oui, je le vois pas, le
bordel. Ouais, le bordel à elle, pas de soucis. Par contre, si moi je laissais traîner mes clés,
je les mets sur son
portefeuille. Ouais, elle les mettait sur mon bureau, en plein milieu du bureau. Vraiment en mode hyper passif-agressif. Ça, c'est ton bordel. Alors que tout le reste, c'était le chaos de fou. Mais par contre, mon bordel, il fallait pas que ce soit là. Alors du coup, on a acheté une desserte. Et du coup, elle peut mettre les trucs dans la desserte. Comme ça, c'est pas sur mon bureau, c'est pas vraiment en plein dedans, parce que moi, du coup, quand je travaille, je veux que ce soit vide. Ça m'ennuyait vraiment, parce que ça m'obligeait à ranger mon bureau avant de pouvoir commencer à travailler. Et donc là, maintenant, elle peut tout mettre dans la desserte, elle a le droit dans la desserte. Du coup, on a fait plein de petites adaptations comme ça pour faire en sorte que.
Mais ça, on avait commencé à les faire avant d'avoir le diagnostic.
C'est ça. Ça remonte. Forcément, on a réglé les problèmes.
Oui, parce que depuis, elle m'a déménagé mon salon 4 ou 5 fois,
Bien sûr, bah oui, moi, quand je suis très stressée, j'aime reprendre le contrôle.
Vous devez être habituée quand même au déménagement.
On s'habitue jamais.
Non, c'est ça, parce que moi, quand je suis stressée, je reprends le contrôle en contrôlant littéralement mon entourage. Donc, enfin, mon entourage physique.
Mon bureau.
Mon bureau m'a complètement changé.
Ouais. Non, mais j'ai changé plein de trucs parce que justement, c'était. Ben voilà, c'est parti, on change tout ça. Et donc, du coup, je l'ai fait plusieurs fois. Et.
Mais je l'ai laissé faire.
Ouais, c'est ça, elle me laisse faire. On prévoit à l'avance quand est-ce que ça va être fait et on le fait. Et des fois, elle le fait avec moi. Surtout quand on range les livres, elle aime bien ranger les livres.
Elle aime bien ranger les
Donc là, par contre,
classer
moi, je suis...
des trucs. Ça...
Ouais, c'est ça, classer, ranger. Je lui mets tout par terre, elle fait des piles, elle est contente. Et après, c'est moi qui re-range tout. Mais ouais, non, on s'équilibre plutôt bien sur ce genre de trucs.
Et est-ce que ce diagnostic de l'autisme a coloré d'autres relations?
Au niveau du boulot,
parce
que
par
nous, en fait, en dehors de nos activités principales, on écrit des bouquins ensemble. Mmh. Moi, je les illustre et elle les écrit.
D'accord.
Et du coup, elle a le bon sens du timing, en fait. Et
ah ouais, quand la deadline, elle dit c'est telle date, on bouge pas de cette date-là.
C'est ça, et donc du coup, alors que moi, je suis très dans la procrastination, donc je vais être en mode, ah c'est bon, on a le temps. Et donc en fait, elle vient me voir, elle me fait, ok, en fait, regarde le temps, regarde le planning, c'est pas possible, on ne peut pas avoir le temps.
Sa spécialité, c'est, ouais, j'ai le temps.
C'est ça, moi, et je suis sûre de moi quand je dis que j'ai le temps, et en fait, c'est pas du tout vrai, et donc du coup, elle vient me voir quand elle se dit, oh là là là, on est dans le mur. Et du coup, on fait le planning ensemble, et c'est elle qui s'occupe de cette partie-là, et du coup, elle m'a apporte un cadre un peu plus rigoureux et,
okay.
Et du coup on arrive sur ouais mais ça c'est ce qu'il me faut en fait à ce moment-là parce que sinon moi je me retrouve dans le fond je vais au mur et j'y vais avec beaucoup d'entrain
parce que j'ai cette qualité des personnes autistes que tout le monde connaît qui est la psychorigidité intense
ça je l'ai
ça
et du coup on tient nos deadlines
comme ça et c'est pas autrement
ouais, on n'a jamais raté une deadline
c'est assez complémentaire quand
voilà.
C'est bien d'accord.
Et après, au niveau du boulot, puisqu'on parle du boulot,
ouais,
j'ai fait reconnaître mon handicap. Donc, j'ai pu voir la médecine du travail, qui m'a appris quels avantages je pouvais tirer de ça.
Mm-hmm.
Et j'ai bien l'intention, à partir de maintenant, de dire à mes collègues que non, je ne suis pas arrogante, je suis autiste.
D'accord, mm-hmm. Ça n'avait pas encore été dit
Non, parce que j'étais en arrêt jusqu'à présent.
Okay. Ça, du coup, elle avait eu des problèmes avec ses collègues
qui sont allés me balancer au proviseur pour me dire que j'étais méchante et arrogante.
Mm-hmm. Voilà. Donc maintenant, on peut donner une réponse. Non, c'est pas...
C'est, oui, non, je peux pas faire du « il fait beau aujourd'hui » et « comment vont les enfants » parce que c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire, en fait. J'ai pas l'équipement conversation informel dans mon bagage de personne autiste.
Alors, il y a des fois où je lui donne des techniques. Par exemple, le ça va, c'est son ennemi.
Ah, ça va, je déteste.
Elle déteste. Et je lui ai dit, mais en fait, ça va,
en plus,
c'est un mot.
C'est un trigger pour moi parce que quand je suis en dépression, c'est ce qui me fait pleurer.
Mmh.
Sachant que j'ai aussi une alexithymie, c'est-à-dire que je sais pas reconnaître mes propres émotions,
ouais.
Je ne sais pas reconnaître la tristesse. Donc je ne sais pas que je suis triste jusqu'au moment où je pleure, et donc où je suis en dépression. Parce que quand je me mets à pleurer, quand on me dit ça va, c'est que je suis déjà en dépression. Donc ça c'est un truc avec lequel sur lequel je travaille avec mon psychologue. Mm-hmm. Parce que bah, je suis très sujette aux dépressions à cause de cette alexithymie, et du coup bah, ça va, c'est un problème pour moi parce que c'est mes triggers. Et en plus...
Et du coup, en fait, je lui disais, quand on est en dehors des périodes de dépression, je lui disais, mais ça va, c'est un mot magique, parce qu'en fait, dès que la personne te dit, salut, ça va, tu te dis, oui, et toi, tu continues à avancer. Du coup, la personne, elle sait que tu n'as pas du tout envie de parler de ses enfants et tous ces trucs-là. Mmh. Je lui disais, il faut juste dire, oui, et toi, et tu continues à marcher, et tu vas voir, c'est magique, la conversation, elle s'arrête toute seule. Et donc, on se donne des petites techniques comme ça, quand on isole.
Ça marche pas en salle des profs, hein. En salle des profs,
si ça marche, si tu as quelque chose à faire, si tu rentres et que tu prends quelque chose, tu dis, oui, et toi, et tu continues. Tu vas marcher avec tes affaires.
Ouais, mais quand tu es en train de manger.
Ouais, non, ça c'est plus compliqué. C'est plus situationnel. Effectivement, si tu prends ton plat tout d'un coup et que tu t'en vas avec, ça fait curieux, on va pas se mentir.
Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de dire à vos collègues que...
Bah, c'est pas agréable en fait d'être la personne arrogante, désagréable, pénible, tout ça, parce que, enfin, en plus, c'est vraiment énervant parce que, et ça je le vis depuis que je suis à l'école, hein. J'entends oui t'es arrogante, ça c'est un truc que j'ai aussi entendu quand j'étais à l'école, tu te penses meilleur que nous, etc. Alors que en fait j'ai envie de leur dire, mais en fait tu te rends pas compte à quel point j'ai envie d'être comme vous. Mais quels que soient les efforts que je fais pour m'intégrer, comme il va toujours y avoir ce moment où je vais rater mon interaction sociale, j'y arriverai pas. Parce que je suis bizarre et ça se voit. Et personne ne veut avoir une personne bizarre dans son groupe d'amis, surtout pas au collège et au lycée, mais c'est encore vrai. C'est vrai de le dire, et c'est triste à dire, mais c'est encore vrai chez les adultes. Les adultes, ils veulent pas avoir une personne bizarre dans leur cercle d'amis. Et en plus, bah, le fait que je sois HQI, que j'ai un OQI, je pense que ça joue aussi. Hein. J'ai du mal à... En fait, j'ai toujours considéré que j'avais un QI normal. Du coup, une personne qui avait un QI normal, pour moi, elle était bête.
Elle était très pas longtemps. Bête, elle était débile. Elle allait vraiment hyper loin en se disant... C'est incroyable quand même que cette personne elle n'arrive pas à comprendre ce truc qui est basique.
Parce que en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que je me déprécie énormément. Donc pour moi, j'avais un QI normal. Mm-hmm. Alors que bon,
c'est ça.
Je vais donner le gros chiffre, j'ai 146 de QI. On peut pas vraiment dire que j'ai un QI normal.
En effet.
Et du coup, ben, en fait, j'ai 46 points de différence avec une personne normale. Et du coup, c'est très difficile pour moi de m'ajuster en fait. Mm-hmm. Et alors après, qu'on soit bien d'accord, il y a des personnes que j'aime énormément et qui ont un QI normal. Hein. Il ne faut pas nécessairement avoir 130 de QI pour rentrer dans le cercle de mes amis.
Qu'elles comprennent que du coup, ce n'était pas des gens débiles et qu'elles arrivent à tout replacer dans une échelle plus conventionnelle, en fait. Et à partir de là, tout s'est débloqué. Il n'y a plus de soucis à ce niveau-là.
Et c'est vrai que ça, c'est un truc que mes collègues, je pense, ont toujours senti. Cette difficulté que j'ai à me mettre au niveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis une professeure de collège absolument nulle. Parce que je n'arrive pas à me mettre au niveau des collégiens. Les lycéens, j'y arrive, les collégiens, c'est impossible pour moi. Je ne comprends pas ce qu'ils comprennent pas. Donc je peux pas expliquer un truc que je comprends pas. Enfin, c'est impossible pour moi. Ouais, c'est pour ça que bah, je préfère dire à mes collègues « je suis autiste » que leur dire « je suis HPI ». Parce que « je suis HPI », ça fait « je suis tellement meilleure que vous ». Non. Alors que c'est pas ça, oui. C'est juste je pense différemment, c'est tout. Et c'est plus facile. J'ai constaté d'ailleurs que les gens sont beaucoup plus gentils quand on leur dit je suis autiste. Par exemple aux urgences, nombre de fois où je me suis fait engueuler quand je suis allée aux urgences parce que ça servait à rien, parce que patati, parce que patata. La dernière fois où je suis allée aux urgences, j'aurais dit c'était encore pour un truc. Enfin,
je m'en rappelle plus.
C'est difficile d'avoir un rendez-vous avec ma généraliste, donc c'était un truc qui n'était pas dramatique, mais il fallait quand même que j'aille aux urgences rapidement.
D'accord.
Et je suis allée les voir en leur disant, par contre, excusez-moi, je dis syndrome d'Asperger, j'avoue, c'est pas bien, mais les gens comprennent tout de suite, en fait. Et donc j'arrive en leur disant, j'ai le syndrome d'Asperger, donc je suis désolée, je risque de pleurer facilement, parce que je suis très stressée. Ils ont été d'une gentillesse avec moi. Pareil, quand je me suis fait opérer du canal carpien, l'anesthésiste, il est resté 20 minutes avec moi pour me détendre. Donc les gens sont vraiment beaucoup plus gentils, je trouve. J'ai beaucoup entendu, les gens sont méchants, etc. C'est pas mon expérience. Les gens sont plus gentils quand on leur dit, quand on leur dit les choses.
C'est rare qu'on tombe sur des gens qui sont pas à l'écoute. Hier, on a eu une personne qui nous a dit, parce qu'on parlait justement vider des trucs et tout, et il y a une personne qui nous a dit, elle disait qu'elle était autiste, et justement, donc vider des trucs, c'était difficile pour elle, parce que jeter, c'est difficile pour elle. Et il y a une personne qui nous a dit, ça c'est une excuse. Bah non, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Et justement, elle a dit non, mais je suis. Enfin, c'est pas une excuse. Je suis vraiment autiste. Elle fait oui, non, mais je doute pas que tu sois autiste. Mais ne pas jeter, c'est une excuse. Et t'es là. Tais-toi. Tais-toi. Si t'as rien de bien à dire, tais-toi.
Mais pour une personne comme ça, je vais avoir 10 personnes qui vont être beaucoup plus gentilles avec moi, en fait.
C'était la première.
Je vois pas quel inconvénient il pourrait y avoir à le dire à mes collègues. Et d'ailleurs, j'ai l'intention aussi de le dire à mes élèves, parce que mon expérience, alors ça pour le coup c'est du 100%, à chaque fois, ça m'est arrivé d'être sur le point de pleurer devant mes élèves, à chaque fois, donc une fois que vous m'avez vu pleurer dans la cour, ils ont été extrêmement gentils avec moi. Ils ont fait des petites blagues, ils ont tout fait pour que je ne pleure pas devant eux. C'est à chaque fois, et ça m'est arrivé 3-4 fois, c'est vraiment du 100%.
Donc, et ils ont conscience de votre connaissance?
Bah non, j'étais pas diagnostiquée à l'époque. Okay.
Mais c'est quelque chose que vous
pensez. C'est une expérience que j'ai. Bon, j'ai pas d'enfants, donc c'est mes enfants. Hein, c'est mes élèves. Ils sont toujours extrêmement gentils avec moi. Ça, c'est. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là.
Mais je pense aussi que c'est parce que tu as du mal à te mettre à la place des gens dans l'absolu, mais là, dans un contexte scolaire, étant donné que toi, ça a été difficile, t'essayes de faire un peu tout ce que tu aurais voulu que d'autres fassent pour toi, et du coup, je pense qu'ils le ressentent, parce que ça marche très bien. Moi, je vois les petits dessins qu'elle ramène, les histoires qu'elle raconte, tous ces trucs-là, les messages que les gamins envoient. On voit bien qu'il y a quelque chose, ils comprennent qu'il y a quelque chose, et je pense que, du coup, c'est pour ça que je suis d'accord avec elle. Je pense que si elle leur disait, ils le prendraient vraiment positivement, en fait.
Bah ça, et étant une femme autiste, je suis pas l'autiste qu'ils ont l'habitude de voir. Je suis pas Good Doctor.
Tout à fait.
Donc même s'ils essayent, ce qui peut arriver, hein, des fois il y en a qui sont pas bienveillants. C'est pas la majorité, mais ça arrive. Mm-hmm. Mais même s'ils essayent de jouer sur ce qu'ils savent des personnes autistes, en fait je suis pas la personne autiste qu'ils connaissent. Donc ça marchera pas sur moi.
Et puis ce sera peut-être mieux aussi pour eux d'avoir un modèle, quelqu'un qu'ils connaissent qui soit autiste, si jamais il y en a qui se posent des questions.
En fait, cette décision, je l'ai prise en discutant avec un des intervenants autistes d'un programme d'éducation thérapeutique que j'ai fait. Mm-hmm. Très bien. en fait, on parlait justement de harcèlement scolaire, et je disais que moi, ça avait été ce qui était vraiment une souffrance professionnelle pour moi, c'est que comme je comprends pas le langage non verbal, si un gamin est harcelé sous mon nez, je ne le verrai pas.
Et c'est pas explicite.
Je suis les professeurs qui ne m'ont pas aidé quand moi j'ai subi du harcèlement. Parce que je ne vois pas le harcèlement. Donc quelqu'un pourrait être harcelé sous mon nez, je le verrai pas. Et du coup, je suis les professeurs qui m'ont pas aidé. Et ça, c'est très compliqué à vivre d'être les personnes qui m'ont pas aidé, quoi. Et du coup, on en parlait et il me disait, bah, sinon tu peux leur dire que t'es autiste, en fait. Et c'est là que j'ai pris la décision de leur dire, en fait.
Comme ça, ils savent maintenant s'ils sont harcelés, qu'en fait, ils ont...
C'est pas que je m'en fiche, en fait.
C'est pas l'indifférence. C'est juste, il faut venir et dire les choses.
D'accord.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est dans l'absolu. C'est pour ça aussi que t'en parles autant, de manière générale, autour de toi, que les gens sachent que c'est pas de l'indifférence, qu'il y a des moments où quelqu'un essaye de dire, d'être vulnérable et de lui faire savoir quelque chose, et elle passe complètement à côté, et pas par indifférence, simplement parce que bah, il faut le dire clairement, en fait. Il faut pas être tourné autour du pot. Et moi, c'est vrai que je suis pas bonne du tout pour exprimer mes sentiments et tous ces trucs-là. Et je sais que si j'ai besoin de quelque chose, je lui dis. Après, c'était une règle qu'on avait mis en place toutes les deux dès qu'on s'était installés ensemble, c'est s'il y a un truc, on le dit explicitement pour éviter les problèmes, pour éviter les non-dits et tous ces trucs-là. Et du coup, ça a très bien marché, puisque il se trouve que pour une personne autiste, ça marche bien.
Et est-ce qu'il y a eu des inconvénients ou des choses qui ont été compliquées à la suite du diagnostic de l'autisme ou même avant?
Dû à l'autisme. Je pense qu'on en a déjà parlé, hein, c'est mon côté territorial. Hein.
Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois où au début, surtout au tout début, avant qu'elle commence, parce qu'au tout début, j'avais pas le droit de bouger des trucs. Hein. Il y avait plein de petits bibelots, vraiment plein de petits bibelots, parce qu'elle jette pas. et en plus, elle trouve ça impoli de jeter les cadeaux qu'elle aime pas. Donc il y avait quand même plein de trucs qu'elle aimait pas. Ils étaient là, mais elle les aimait pas. Donc ils étaient. Et moi, ça me rendait un peu dingue.
La politesse, c'est mon guide d'interaction sociale.
D'accord.
Donc je fais pas de trucs pas polis. Et on jette pas un truc de.
On avait des trucs complètement aberrants, il y en avait partout, on pouvait rien faire. Et puis quand on est là au tout début, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est les affaires des autres. Mais quand on s'installe et que ça fait plusieurs années, que ça fait 4 ans qu'on est ensemble, mais qu'on peut toujours rien toucher, qu'il faut faire attention. Si je cassais un truc, c'était un drame énorme parce que c'était dans sa tête, je l'avais fait exprès. Parce que j'aimais pas les bibelots, je le cachais pas, quand même, que je les aimais pas. Mais donc, du coup, c'était fait exprès.
C'est pas que t'avais fait exprès, c'est que tu t'en fichais.
Ouais, c'est ça, que par négligence, en fait, je les abîmais ou je les cassais. Et donc, ça a mis un temps.
Et puis, alors, elle s'excuse pas.
Ouais, j'ai du mal. Ben, ça fait partie du pack, j'ai du mal à exprimer les trucs. Donc, s'excuser, c'est faire preuve de vulnérabilité.
C'est compliqué.
Donc, on a du mal. Mais du coup, ça a mis du temps pour qu'elle autorise les déplacements. Au début, on les faisait ensemble, elle contrôlait de dingue. Et je me rappelle qu'on a eu une dispute où justement, je lui disais, mais en fait, tu me dis que je suis chez moi, mais c'est pas du tout le cas. Je peux rien mettre, je dois avoir l'autorisation pour déplacer un truc et tous ces trucs-là.
Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant c'est l'inverse. Hein. C'est moi qui ai plus le droit de bouger des trucs.
Ouais, dès que je mets un nouveau truc, elle me le bouge.
Ouais, parce que
ça lui convient pas.
En fait, le truc, c'est qu'on est pas du tout d'accord sur la déco. Pas du tout. Elle aime beaucoup de trucs. Elle aime beaucoup des chats. Et elle a plein de petits bibelots de chats. Et elle a un meuble dans lequel il y a tous ses bibelots. Mais dès que ça rentre pas dans ce meuble-là, les bibelots ils partent un peu partout. Et moi, je sens revenir. C'est moi qui fais la poussière. Donc je ressens venir la guerre de la poussière avec les bibelots. Donc j'essaie de limiter de dingue.
Non, mais des fois, juste elle me les déplace.
Ouais,
pour qu'on les voit moins parce que je les déteste. Mais j'essaye de pas lui dire que je les aime pas. Donc,
je peux rien poser sans qu'elle me le déplace.
Comment est-ce que vous faites la différence entre des choses qui peuvent vraiment provoquer une réaction forte chez Laure-Hélène du fait de la rigidité ou des choses qui sont confortables pour vous? Comment vous faites la différence entre ça et entre. Des défauts qu'on te montre et des disputes de couple qui arrivent.
On en parle.
Ouais, directement.
On se dispute tout le temps.
Oui, c'est ça, quand on se dispute, en fait,
en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on monte généralement très fort toutes les deux parce qu'on est bien colériques. Et ensuite, chacune part dans son coin.
Et ça fait longtemps que j'ai pas quitté la maison.
Oui, c'est vrai, ça, j'ai resté. Elle s'en allait dès qu'elle était très en colère. Elle coupait la conversation, au milieu de la conversation, elle faisait ses clics, ses claques, elle sortait. Et elle partait, je sais pas où. Et voilà, elle était partie. Et
moi, je m'énervais parce qu'elle m'appelait pas pour me demander où j'étais.
Mais sauf qu'il y avait des fois où elle avait pas son téléphone et tous ces trucs-là, donc il y avait pas vraiment moyen de l'appeler. Mais ça, elle s'en rendait pas compte, elle était énervée dans son coin. Et moi, par contre, j'étais en mode volcan dans la maison, toute seule. Je montais encore plus en pression. Mais dès qu'elle rentrait, du coup, je lui rentrais dans l'art immédiatement. Et donc ça, on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout, ni pour l'une ni pour l'autre. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'engueule, puis ensuite chacune part dans une pièce, on redescend. Ouais, on peut dire. Moi j'allais dire on redescend pour faire genre on est adulte. On boude. Et une fois qu'il y en a une qui a fini de bouder,
sachant qu'on
a bien cogité, on est armés en vérité, on a fini de bouder, mais on est toujours armés.
Ouais, d'accord.
Il y en a une des deux qui décide d'être l'adulte et qui arrête de bouder, qui va voir l'autre et qui lui dit bon. Ce qui s'est passé là, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a lancé la situation?
Bon, là, celle qui est toujours en train de bouder tire à boulet ouvert.
Enfin, ouais, et pas content. Non, mais ça dépend. Rouge, si on le fait tout de suite, ça marche pas du tout. Parce que là, on est encore super énervé. Et généralement, c'est moi qui suis super énervé.
Mais quand on est redevenu des adultes, on arrive à désénerver l'autre.
Ouais, c'est ça. Il faut vraiment attendre un peu. Mm-hmm. C'est toute la beauté.
En général, c'est elle.
C'est moi qui suis. Ouais, mais c'est aussi moi qu'il faut pas venir voir trop tôt. Parce que sinon, je hurle et tout. Non, il y a tout un équilibre qu'on a réussi à trouver. Et là, on vient et on redécompose toute la situation. On voit ce qui a causé le truc, pourquoi c'est monté aussi haut, comment est-ce qu'on peut faire la fois d'après pour pas que ça arrive. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on détermine si c'est quelque chose de très circonstanciel ou si c'est quelque chose qui vient du spectre, en fait, et que du coup là on va pas pouvoir juste dire bon bah du coup la prochaine fois ça t'énervera pas comme ça, tu seras moins tendu et du coup ce sera pas un problème. Non, on sait que c'est un truc qu'il va falloir éviter, qu'il va falloir le prendre d'une autre façon, parce qu'il y a certains trucs qu'on peut pas éviter, parce que forcément on doit régler ce souci, donc il faudra juste trouver une approche différente et on discute ensemble de quelle est l'approche la plus pertinente et on teste. On voit si ça marche, la fois d'après, on dit bon, bah voilà, ça
marche. C'est vrai que je suis assez compliquée parce que, en fait, je peux être énervée par un truc annexe et là, je vais être odieuse en fait. Et le truc qui m'énerve, c'est pas forcément un truc pertinent.
Et c'est pour ça qu'on le décompose en fait, pour essayer de déterminer si c'était bien le fait que j'ai déplacé son chat un petit peu dans un autre endroit qui l'a rendu complètement furieuse, ou si c'est quelque chose d'autre et que ça a juste été le petit élément qui a fait
ça. Une parole ou un geste, ouais. Ça peut me rendre absolument furieuse, et là, je m'en rendrai pas forcément compte. L'excitimie. Et par contre, je vais être très énervée et donc odieuse.
Et par contre, si on le décompose après, là, on arrive à froid, on peut tout décomposer, tout analyser. Et comme on est très analytique toutes les deux, on fait juste point A, point B, point C, et puis c'est bon, conclusion.
Je suis professeure de sciences.
Ça marche, ça aide. Là, au cours de ce podcast, vous nous avez donné pas mal de conseils, de stratégies d'adaptation que vous avez mises en place. Qu'est-ce que vous donneriez, peut-être deux ou trois conseils pour des personnes qui viennent d'apprendre que leur partenaire est sur le spectre autistique?
Ou inversement, pour le dire à son partenaire.
La personne qui est autiste, exactement. Pour moi, c'est l'important, c'est de communiquer, en fait.
Comme
je disais, dans mon expérience, des gens qui se comportent mal, il y en a peu. La plupart des gens sont très compréhensifs, donc il ne faut pas hésiter à le dire.
Ouais, et puis je pense que nous, notre règle de départ, quand on avait décidé que s'il y avait un problème, on devait le dire immédiatement, ça a été ce qui a fait que ça a fonctionné en fait aussi longtemps. C'est que du coup, on l'a appliqué toutes les deux, comme on est très souples toutes les deux, on l'a appliqué de A à Z depuis le début, et donc dès qu'il y a un souci, on vient voir, et ce qui fait que nos disputes, on est toutes les deux une attitude un peu... tendance à la colère, mais comme on parle et qu'on explicite les choses, on est en colère pendant 2 minutes, et ensuite derrière on est capable de revenir dessus et de se poser.
Après, l'autisme, ça reste un spectre, hein. Pour le coup, moi je suis sur la partie du spectre qui ne comprend pas le non-verbal, donc une personne qui est avec un partenaire qui ne comprend pas le non-verbal, donc qui est sur ma partie du spectre, le passif-agressif, ça marche pas.
Oui, c'est clair.
Moi, je suis pas passive-agressive, je suis agressive-agressive, donc la question se pose pas.
Passive-agressif, ça ne sert à rien.
Je vais sentir qu'il y a un truc qui va pas, mais je vais pas savoir ce qui va pas. Du coup, je vais faire « Allez, hop, on passe à la suite.
» D'accord.
C'est ça, et du coup, en fait,
si je sens qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas toujours le cas.
Le partenaire d'une personne qui est autiste, ça peut devenir son allié, en fait. Parce que moi, pour le coup, l'implicite, je le gère. Moi, je suis le genre de personne qui décompose tout et qui analyse tout, qui va analyser le petit sourire et tous ces trucs-là. Et du coup, je vais pouvoir lui dire « c'est une blague ». Et il est en colère, arrête de dire ça. On s'envoie beaucoup de messages pendant qu'on parle avec d'autres gens. On s'envoie des messages pour dire « non, arrête, là, la personne, elle est énervée », tous ces trucs-là. Et donc, on se donne des indices comme ça pour...
Enfin, on se donne... Elle me donne, moi...
Ouais. Après, des fois, elle vient me voir, elle me fait « je comprends pas pourquoi tu m'as dit ça, j'avais bon, là !» J'ai dit « non, t'avais pas bon, il était mal, et toi, t'as fait des blagues, et c'était pas bon. »
Ouais, l'humour, c'est pas...
Ouais, comme elle aime l'humour noir, en plus, elle pense parfois que c'est approprié, et donc elle va super loin sur des situations super graves, et moi, je suis là, genre « arrête, stop !» Et je lui envoie des messages « stop !»
Des fois, je fais des blagues horribles, j'avoue.
Ouais, donc, du coup, voilà, c'est... De toute façon, je pense que dans toutes les relations, c'est un travail d'équipe, et là, encore plus, c'est un travail d'équipe, et ça peut très bien fonctionner, on peut très bien s'équilibrer, et puis voilà.
Et est-ce que vous avez des projets d'avenir, donc chacune d'entre vous, ou ensemble?
Moi déjà, je voudrais reprendre le travail, ce que je ferai au début de l'année prochaine.
D'accord, en septembre?
Oui, sachant que prof, c'est, je fais partie de ces personnes de plus en plus rares dont c'est la vocation. C'est vraiment le métier que j'aime faire, et donc je suis contente de reprendre.
Avec des lycéens, du coup.
Avec des lycéens, ouais. Normalement, je devrais avoir des aménagements par rapport à...
Mi-temps thérapeutique, déjà.
Déjà, j'ai un mi-temps thérapeutique, mais de toute façon, comme j'ai une reconnaissance de handicap, j'ai droit au temps partiel. Et ultérieurement, on envisage de travailler ensemble, peut-être.
Plus tard, ce qui est moi dans ma profession, donc je suis tatoueuse, on peut avoir l'option de faire des salons privés. Et du coup, on n'a pas besoin de quelqu'un à la réception, en fait, parce que les personnes qui viennent, elles viendraient que sur rendez-vous. Et ce qui nous plairait bien, c'est de faire un atelier à la fois pour le tatouage et pour le fait qu'elle écrive, et en fait, avoir son bureau, son atelier, et qu'on travaille ensemble, parce qu'on sait qu'on travaille bien ensemble. Mmh. Et donc, plus tard.
Donc, ça, c'est quand elle gagnera un peu plus.
Ouais, quand je serai riche et célèbre.
Parce
que pour l'instant, on va pas se mentir, sur mon salaire, donc pour l'instant, il faut quand même que je travaille.
Mais on aimerait bien pouvoir travailler ensemble, en fait. Puisqu'on sait que ça fonctionne bien, ça fonctionne depuis des années, on aimerait bien continuer.
Je pense pas qu'il fait l'éducation nationale, ce que j'envisage, c'est un temps partiel, quoi.
Ouais. Et le déménagement, donc, dans 4 ans.
4 ans.
pas
déménagement dans 4 ans.
Un 4 ans qui est 4 ans, pas un 4 ans qui va faire.
Alors, 4 ans, on cherche.
Ouais, non, mais pas 5 ans, 5 ans, 4 ans, 4 ans, 3 ans, 3 ans, tu vois. C'est 4, 3, 2, 2, 1.
Ouais, mais 4 ans, on cherche.
Voilà,
oui, oui. Non, mais en fait, je suis plus favorable au déménagement depuis qu'on a décidé qu'on vendrait pas mon appartement.
Ouais. Aussi.
Voilà. Parce que du coup, on garde.
On va le mettre en location. Donc, comme c'est mes affaires, j'ai du mal à trouver mes affaires.
Mais alors, mon appartement, jeter mon appartement, c'était. Voilà. Donc, il a fallu trouver ce qui posait problème dans le projet de déménagement. Et dès que j'ai compris que c'était. Il fallait pas jeter l'appartement, ouais. Et ben là, c'est bon, on a débloqué le truc.
Ça, voilà. C'est grâce à notre entrepreneur, qui est très bien aussi. Voilà. Parce qu'on est entouré de personnes très bien.
Oui, parce qu'elle est. Comme du coup, elle a du mal à avoir confiance, et ben on reste avec des gens. Dès qu'on en a trouvé un, on le garde.
En même temps, il est parfait.
Voilà.
D'autres projets, chacune de son côté.
On va peut-être continuer à faire des trucs de personnes pas adultes, autrement dit des conventions.
Ouais, mais sinon, globalement, nous, on rigolait en disant qu'on était des perruches. Ouais. Parce qu'on fait toujours tous les trucs
inséparables, vous savez.
Ouais.
D'accord.
Et donc, nous, on n'a pas particulièrement de projets séparés.
En fait,
parce
on a fait une expérience récemment qui n'a pas été très concluante.
Ouais, elle est partie en
vacances. Faire un week-end de pêche avec mon père, ce qui était très bien d'ailleurs. Hein. J'ai adoré le week-end de pêche avec mon père.
Et moi, je me suis dit, c'est un moment.
Depuis une heure, je savais que j'allais pas rentrer et dormir avec elle. Sachant qu'on dort même pas tous les soirs dans le même lit. Hein.
Ouais.
Parce que comme j'ai du mal à m'endormir, des fois, je m'endors devant la télé. Donc,
d'accord. Voilà.
C'est pas qu'on s'est trop gueulé dans la journée.
Non, on n'est pas jusque là.
J'étais partie depuis une heure, on était toutes les deux en train de pleurer sur notre téléphone.
Ouais, s'envoyer des messages hyper neuneux et tout. Alors, sachant qu'on le fait pas d'habitude, hein. En public, on n'est pas en mode mon amour et tout, non. Mais là, on s'envoyait des messages neuneux comme si on allait plus se voir pendant 15 jours, alors qu'on se revoyait le lendemain, hein. C'est tout, c'était juste une nuit. Voilà,
donc on est
des perruches.
Et sur ces derniers mots de fin, bah, je vous remercie à toutes les deux. C'était Lumière sur le spectre, l'autisme révélé, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour votre écoute. On aimerait remercier aussi toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce podcast. Bruno et Morissette pour tous les moyens techniques, Sophia, Max et nos autres co-animateurs, et surtout nos invités qui nous ouvrent la porte de leur intimité à chaque épisode. Notre espoir, c'est que ces partages d'expériences participent à enrichir des réflexions individuelles et sociétales, et pourquoi pas à vous soutenir dans votre parcours personnel. On espère pouvoir tenir un rythme de 2 épisodes par mois. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de votre expérience sur notre compte Insta, C3RP, Réhab Psychosocial. À bientôt.